Vous êtes sur RTL.
Alors on vous retrouve dès 8h pour votre prochaine place. Il est 7h10, la politique avec vous Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous allez nous parler de la difficulté de trouver le ton juste pour évoquer ou honorer les 100 000 morts du Covid en France.
Oui, le chiffre est marquant, hein, symbolique, 100 000 morts. Il donne une idée, mais une idée seulement imparfaite, presque abstraite de ce que nous vivons depuis plus d'un an. Un chiffre ne raconte pas les drames, la souffrance endurée, la fatigue d'un pays tout entier. Ce chiffre donne seulement une idée de l'ampleur de l'épidémie, mais il ne nous dit pas vraiment où nous en sommes et il va malheureusement continuer de progresser.
Ce que vous voulez nous dire par là, c'est qu'il est difficile de marquer solennellement le franchissement des 100 000 décès.
Oui, et au sein du gouvernement, la réflexion a duré plusieurs jours. Finalement, Emmanuel Macron marquera le moment aujourd'hui avec un message aux familles des victimes du Covid, ce qu'il esquisse à nos confrères du Parisien quand il parle d'une période cruelle pour les Français qui ont perdu un proche. Les morts dans la solitude, sans visite, des funérailles impossibles ou très réduites, ce sont ces traumatismes qui resteront avant tout dans les mémoires.
Dites-moi, le porte-parole du gouvernement a aussi évoqué un hommage et un deuil national hier.
Oui, mais ça sera d'abord plus tard. Et puis la forme n'est pas encore arrêtée. Un hommage ou un jour de commémoration, comme le demandent des associations et quelques élus, c'est compliqué. Certains le veulent aussi pour trouver des responsables. Et alors que nous sommes toujours dans la crise. Les historiens le racontent très bien, les épidémies sont oubliées très vite. Dès que c'est terminé, nous voulons passer à autre chose. Dès le lendemain, reprendre une vie normale. C'est comme ça que les grippes asiatiques, dans les années 50 et 60, plusieurs dizaines de milliers de morts chacune, avaient été oubliées. Il reste dans les livres d'histoire la grippe espagnole, il y a un siècle, et ses 200 000 à 400 000 morts en France, selon les études. Mais pour ces événements tragiques, il n'y a pas de journée de commémoration, d'hommage ou de monument. Après une guerre, des atrocités, une commémoration, un monument aux morts veut aussi dire « plus jamais ça ». Cela a moins de sens pour une épidémie, sauf à reconnaître une culpabilité, ce qui est une autre démarche. Il existe, à ma connaissance, une exception, il y a des mémoriaux du sida aux États-Unis, une autre épidémie où la mort a été solitaire dans les années 80 et les funérailles impossibles. Il s'agit d'accumulations d'œuvres d'art populaires, des patchworks, pour représenter chaque défunt. Les maladies liées au sida ont tué à ce jour 32 millions de personnes dans
mais
le monde.
Vous pensez que cela peut quand même avoir du sens de marquer le nombre de disparus du Covid?
Oui, mais quand? À ce bilan, le nombre de morts, il faudra aussi ajouter ceux qui n'ont pas pu être soignés d'autres maladies, faute de place dans les hôpitaux avec les déprogrammations. Il faut aussi ajouter ce qu'on appelle les Covid longs, ceux qui vont continuer de souffrir des effets de la maladie, jusqu'aux effets psychologiques que nous n'avons pas fini de mesurer. Et puis il nous reste à découvrir tout ce que cette épidémie a changé sur nos sociétés, nos relations, notre vivre ensemble. Tout cela va bien au-delà d'un nombre brut et impressionnant ce matin de morts. Et puis je vous le disais, ce chiffre va continuer de croître. Le moment du bilan n'est pas arrivé, ni le bilan sanitaire, ni le bilan politique. Le bilan sanitaire, il faudra attendre peut-être un an, deux ans, trois ans encore. Le moment du bilan politique, lui, est fixé en France. Ce sera l'année prochaine, en 2022, avec l'élection présidentielle.
Olivier Bost, que l'on retrouve sur le site RTL.fr. À 7h40, l'invité d'RTL Matin est Sarah El-Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Elle évoquera notamment le retour du SNU, le fameux service national universel, au micro d'Alba Ventura. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes.
RTL Matin, Yves Calvi.
Avec notre brigade de l'actualité ce matin, nous voulions prendre un peu de temps sur le dossier du nucléaire iranien. L'Iran a multiplié ces derniers jours, ces dernières heures, les annonces toujours plus alarmistes sur sa volonté de se doter un jour de l'arme nucléaire. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
D'abord la première question, les Iraniens disent que leurs intentions sont pacifiques et manifestement personne ne veut les croire. Pourquoi ?
Eh bien parce que l'uranium qui est utilisé dans le civil, c'est-à-dire notamment dans les centrales nucléaires, eh bien il est très peu enrichi, entre 3 et 5%. Et sauf que là, les Iraniens, eh bien ils annoncent vouloir enrichir de l'uranium à 60%. Et là, clairement, l'objectif n'est plus le même, car c'est pour faire une bombe nucléaire qu'il vous faut de l'uranium très enrichi, presque pur. Et donc c'est manifestement la voie qu'ont décidé de prendre les Iraniens. Donc il y a ce décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, mais personne sur la scène internationale n'est dupe de cette posture iranienne.
Aujourd'hui, l'Iran représente-t-il une réelle menace ?
Alors, avec de l'uranium très enrichi et les missiles dont ils disposent, les Iraniens auraient tous les éléments nécessaires pour faire une bombe nucléaire. Mais attention, cela ne veut pas dire que ce sera demain. Oui. Il faut encore des mois, des années d'essais, de recherches, parce que c'est complexe et instable. Selon certains spécialistes, les Iraniens ne pourraient pas avoir l'arme nucléaire avant environ 2 ans. Donc oui, il y a un risque, mais il n'est pas immédiat.
Enfin, 2 ans, ça vient très vite quand même. Hein.
Pourquoi, ça vient vite.
Oui. Pourquoi les Iraniens utilisent-ils cela comme moyen de pression ?
Oui, c'est leur manière très forte de négocier et de dire aux autres pays ben, « nous avons des exigences et si vous n'y répondez pas, nous allons continuer sur cette voie ». En fait, c'est un jeu un peu dangereux, tellement oui. dangereux d'ailleurs que ça inquiète les ennemis de l'Iran, en premier lieu Israël. Et c'est pour ça qu'Israël est à l'origine du sabotage avec une bombe d'une installation nucléaire iranienne dimanche dernier et que les services secrets israéliens ont à plusieurs reprises, pour tenter de mettre fin à ce processus, fait assassiner des ingénieurs nucléaires iraniens jusque dans les rues de Téhéran.
Mais dans ce contexte que vous décrivez parfaitement, est-ce qu'on peut imaginer une issue politique, Brice?
Alors, on peut l'espérer. C'est d'ailleurs l'enjeu des négociations qui se déroulent en ce moment à Vienne, en Autriche. Alors, il y a la Russie, la Chine, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis et l'Iran pour tenter justement, vous savez, de retrouver un terrain d'entente sur le nucléaire oui. suite à cet accord signé en 2015 que Donald Trump avait quitté. Alors, selon le texte, les Iraniens s'engageaient à arrêter cette quête nucléaire et en échange, les autres pays réinvestissaient dans l'économie iranienne. Mais évidemment, cette annonce de Téhéran de reprendre l'enrichissement à 60% de l'uranium, ça ne va pas vraiment dans le sens de l'apaisement et du consensus diplomatique.
Bon, tout cela est passionnant et quelque peu effrayant. Merci beaucoup, Brice Dugénie. Dans un instant, nous allons revenir sur le...